Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Okay? En vacances.
I don't like it at all.
Radio X.
Mesdames, messieurs, voici Stéphane Monette.
Je pense que c'est le moment que j'attendais le plus de mon été, de parler avec Stéphane Monette, me prendre pour Danny Hall, puis l'avoir juste pour moi. Là. Salut Stéphane Monette, comment ça va?
Ça va super bien, toi, Garrett.
Oui, oui, oui. Ben, je vous présente, M. Monette, là, aux auditeurs là, qui ne vous connaissent pas. Là, peut-être qu'il y a des Montréalais qui sont en escapade québécoise. Vous êtes conférencier, chasseur, auteur, cinéaste, mais surtout cuisinier. Aujourd'hui, Stéphane, vous êtes en présence de l'équipe de Radio X pour nous faire quelques recettes de mufettes et de porc-épic. Ben non, là, on parlera pas de même.
C'est trop pour moi-même, arrête ça.
Hey, Stéphane, toi, le matin, tu jases hein, sur YouTube. J'avais pas comme compris ça, mais en faisant ma petite recherche te concernant, j'ai compris que tu fais comme de la radio sur YouTube.
Ouais, ben en fait, pendant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, j'avais un fanbase là, un peu là, sur Facebook, toute l'équipe.
Ouais.
Puis on a commencé à faire une petite chronique le matin, ça s'appelle On jase de chasse, de pêche, de plein air.
Ouais.
Puis alors, où est-ce qu'on se parle, je suis à 6120 quelque chose. En ligne à tous les jours. Ça veut dire que ça fait 6 ans que je suis en ligne à tous les jours.
Ben, t'es coriace.
Où est-ce que je... Ouais, ben écoute, ça l'a développé, ça a donné deux choses pour m'être bien transparent avec vous autres. Là. La première, c'est que ça m'a touché à un moment donné pendant la COVID parce que il y a des dames qui m'appelaient pour me dire t'as accompagné mon chum, il est en dernier fin de vie, puis il t'écoutait à tous les jours. Puis il y a eu ce côté-là bien humain. J'ai fait, ben voyons donc, je pensais jamais que je pouvais rejoindre. Ouais, c'est ça, je pensais jamais que je pouvais rejoindre des gens comme ça.
Faire une différence dans leur vie.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la communauté des chasseurs puis des pêcheurs, ils sont très... on aime ça. On aime ça à l'année. Puis, que je sois là tous les jours, entre 15 et 30 minutes par jour,
oui.
Ben j'emmène tout le temps ce qui se passe dans la saison, ben, en fait, dans la journée de la saison. Fait que là, puis je les amène avec moi quand je fais des voyages. Tu sais, je suis très transparent
avec tout
le monde.
C'est qui, Stéphane, ton audimat, là? Je veux dire, c'est un avocat dans le centre-ville de Montréal qui va à pêche une fois par année puis qui dit, moi, là, ça me prend ma dose de Monette le matin, là, tu sais. Puis c'est du monde qui n'ont pas accès nécessairement à un plan d'eau tous les jours comme toi puis qui se disent, m'a vivre ma vie de pêcheur par procuration.
Ben en fait, depuis 6 ans, là, je vais dire ça comme ça, les gens qui me parlent, je les ai toutes, là. J'ai les gars qui sont des guides, des gars qui sont dans le bois à l'année, qui m'écoutent, qui sont bacards, qui sont pas les hardcore. Puis j'ai ceux qui aiment ça les fins de semaine, j'ai des hommes d'affaires, tu sais, ça m'a amené à avoir des partenaires avec moi là-dedans, comme Beretta, où est-ce que c'est une compagnie d'armes à feu, puis ils ont des armes ils ont des belles armes, ils ont des armes, monsieur tout le monde. Puis quand je rencontre ces gars-là, souvent, il y a des gars qui vont dire, oh, moi, j'ai un gun de tel modèle, je fais, ben non, toi, je pensais pas que tu peux avoir ça au Québec. Fait que, tu sais, je touche, en 6 ans, tu pognes 2 minutes de tout le monde que tu rejoins, vraiment.
Je me suis préparé des questions là, dans les 2 dernières années en espoir d'avoir Stéphane Monette juste pour moi. Puis la première est la suivante, Stéphane, puis t'es pas obligé de répondre, là, tu te dis passe, j'en ai d'autres. Là. Ma mère est gaspésienne, t'sais, elle vient de Kaplan, là, Kaplan-sur-Mer, entre Bonaventure et New Richmond. Puis, ben, tu sais, toute ma vie, tu sais, bon, j'ai entendu parler d'une truite en particulier, la Kavanagi, parce que ma mère s'appelle Kavana. Puis, il y avait un lac qui s'appelait, c'était le lac de mon grand-père. Puis, mon grand-père, c'était un gars têtu, tu sais, il avait une jambe plus courte que l'autre. Puis, à un moment donné, il avait envoyé des truites à l'université de Montréal, dans une université à Montréal, genre McGill, pour leur dire, ça, c'est des truites qu'on pêche dans mon lac, puis je suis pas capable de les identifier. Tu sais, est-ce que c'est une sorte qui existe nulle part ailleurs ou juste chez nous? Puis le scientifique de l'époque avait dit ça, monsieur, c'est vraiment une sorte de truite qui a évolué tout seul dans un lac vraiment pendant des milliers d'années. Et on va l'appeler la Kavanagus en l'honneur de vous, monsieur Kavana. Tu sais. Fait que je me demandais si, dans le, tu sais, parce qu'on dit, on raconte qu'au Québec, il y a plus de lacs que de monde, est-ce qu'on peut présumer qu'il y a Il y a plein de variétés de truites et de saumons qu'on n'a pas encore découvert, comme un peu on l'avait fait à l'époque de mon grand-père.
Wow, là, c'est une... Hey, my God, on peut élaborer pas mal là-dessus.
C'est ça que je veux.
En fait, la canne avec 10, je la connais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça.
OK.
Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que, oui, effectivement, dans plusieurs lacs à travers la province, ben ça dépend de l'habitat. Puis tout dépendant de l'habitat, de la profondeur des lacs, de comment est-ce que la truite va évoluer dedans, ben elle va être différente. Comme on va parler d'orignal, là, s'il y a des chasseurs d'orignal, les oreilles vont le sceller. Parce que l'Oriental, c'est la même affaire. L'Oriental, ça reste. Tu sais, on a une espèce qui est le Eastmoose, l'Orignal de l'Est au Québec. Bon, puis il y a un nom latin, je me souviens pas. Mais
il y a des différences?
Ben oui, tout dépendant de l'habitat, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il mange.
OK.
Fait que moi, pour les avoir chassés puis avoir pêché pas mal partout, ben tu t'aperçois, mettons, que les orignaux du parc des Laurentides.
Ils n'ont pas les oreilles pareilles.
Ils ont pas fait pareil comme les orignaux de la Gaspésie.
Okay.
Et les truites, ben dans le cas des truites, ben on le sait qu'il y a certaines truites qui vont vivre plus dans une partie du lac à surface. Il y a certaines truites qui vont vivre dans le même lac dans les profondeurs. Donc, leur nourriture, elle est différente, leur façon de vivre est différente. Puis, quand elles attrapent, il y en a des fois qui vont dire « Hey, j'ai pogné une truite qui est saumonée, elle est rose. » Puis, il y en a d'autres qui vont dire « Moi, j'ai pogné une truite, je sais pas de quoi, elle est blanche. » Ben, en fait, c'est que c'est les mêmes espèces, mais c'est l'habitat qui les transforme, qui les change.
L'évolution est différente.
L'évolution, exact. Puis, l'exemple la plus flagrante qu'on a, c'est le chevreuil. Parce que le chevreuil qu'on a sur le continent au Québec, peu importe les régions, il va varier un peu, mais le même chevreuil a été introduit à l'île Anticosti.
Oui.
Puis ça va faire à peu près 75-80 ans qu'il est là, puis c'est plus le même chevreuil qui est à Rimouski.
Il y a une identité, ce chevreuil-là, là, du fait
exactement.
Qu'il est comme un peu isolé, s'est reproduit de par lui-même, avec tout le temps ses mêmes, puis là, l'habitat, la nourriture, tout ça, là.
Exactement. Puis, tu sais, ceux qui connaissent le chevreuil, quand tu regardes un chevreuil de l'île Anticosti, tu vas dire, c'est pas un chevreuil du Québec, c'est pas un chevreuil de l'Ouest canadien, c'est pas un chevreuil de Pennsylvanie, c'est vraiment un chevreuil de l'île Anticosti.
C'est pas propre au
clip. Qui a changé.
Ça peut être les ours,
Non, je pense pas. Tu sais, moi, je pense que les espèces ont été quand même bien identifiées. OK, mais l'affaire qui va changer la morphologie, ben, c'est souvent qu'est-ce qu'ils mangent. Puis après ça, ben la génétique, où est-ce que le mix entre plusieurs espèces, en plusieurs êtres, on va dire ça, ben ça change avec le temps. Comme un peu l'être humain, là, on parlait de l'être humain, c'est la même affaire. T'as des gens, tu sais, moi, je suis tout le temps, je trouve ça tout le temps drôle d'aller en Abitibi, qu'il y a souvent des géants de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4.
Ouais.
Puis tu vas dans d'autres régions où est-ce que les gars, ils ont 4 pieds 8, 5 pieds 2, 5 pieds 4. Ben, on comprend bien qu'il y a eu un mix à un moment donné qui a donné cette génétique-là.
Il y a un mâle dominant qui a fécondé plein de femelles. Depuis ce temps-là, il mesure 6 pieds 6 dans ce coin-là.
Ben moi, mon métier premier d'éleveur de chevreuil, parce qu'on est éleveur de chevreuil.
Oui, sur la ferme.
Sur la ferme. Ben nos premières, je te dirais, mettons, les 20 premières années de l'entreprise, c'était ça, de travailler les génétiques. Augmenter la qualité de génétique du chevreuil pour arriver avec des chevreuils avec des énormes panaches, des panaches très distincts, pour pouvoir ensuite les revendre ou avoir des plus grosses femelles qui vont donner. Fait qu'on est, j'ai fait ça, moi, pendant quasiment une vingtaine d'années au vol, là, d'étudier les génétiques, comment les travailler, comment augmenter les stades, comment faire ça. Fait que la nature, elle a fait ça à plus long terme, mais moi, je pense que c'est plus, comme je te dis, une question d'habitat, une question de qu'est-ce qu'ils mangent, une question de comment est-ce que
c'est.
Mais
la Cavanagus, dans son lac, était comme isolée. Là, de la théorie du scientifique, que j'ai retrouvé papier pendant mes vacances. Là, c'est pour ça que je suis un peu plus briefé que d'habitude. Là. C'est qu'il n'y avait pas il y avait des ruisseaux qui coulaient qui menaient au lac, mais il n'y avait pas de ruisseau qui permettait à la truite de continuer sa route. Elle était comme
pas
là.
C'est
comme la fin de la route, the end of the road. Puis là, ben, c'est ça qui a créé pendant des centaines, voire des milliers d'années, une espèce de génétique avec une mangeoire. Une petite nageoire, pardon, qui était différente. C'était pas mal ça, la principale.
Wow, quand même. Ben, tu sais, dans la même ordre d'idée, on a aussi la Wananish, qui est un saumon de l'Atlantique, qui a été pris dans des lacs, puis qu'elle s'est adaptée à la remontée des rivières. Elle a gardé son même côté de montaison que le saumon fait dans les rivières du Québec.
Elle est devenue un poisson d'eau douce.
Elle est devenue à la drôme, exactement. Elle est devenue qu'elle a resté dans l'eau douce. Fait que, mais il faut qu'on s'en parle.
Je vais t'envoyer ça, me faire plaisir.
Vraiment?
Deuxième question, mon Stéphane.
Ah ouais, ouais.
Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné par mon oncle Zozo. Il s'appelait Alonzo Bugeaud. Toute sa vie, il a posé du prélor en Gaspésie. Là, chez Bugeaud et Frères, là, c'était bien connu. Là, il posait du tapis, il posait du prélor. Les genoux bien finis. Mais ce qu'il faisait pour changer ses soirées, parce que c'était un homme qui n'a pas eu vraiment une femme, là, Il y en a eu plusieurs. Mais tout ça pour dire qu'il faisait des mouches. Et il commandait des plumes. Tu sais, puis dans le temps, dans les années 60-70, faire des mouches, c'était un peu abstrait. Commandait des plumages de l'Afrique, des couettes de ça, puis des plumes rouges, vertes, toutes les couleurs possibles. Il faisait ça sur le bout de la table de cuisine avec une espèce d'affaire pour rouler ces fameuses mouches. Mais son fait d'armes le plus génial, Zozo, mon oncle Zozo que j'aimais tant, c'est qu'il faisait les mouches de Gordie Howe. Là, on est dans l'inauguration du pont Gordie Howe. Là, j'ai dit, je vais ressortir ça, moi, cette mouche-là de Gordie Howe. J'en ai une chez nous. Ma sœur aussi, elle en a une. C'était une mouche avec une petite affaire de rouge. Là, tu sais, c'était pour pogner le saumon, évidemment. Le Gordie Howe, il venait pas pêcher le Moinet là, en Gaspésie. Est-ce que ça existe encore, ces fabricants de mouches-là artisanaux qui font une différence pour des joueurs de hockey qui vont, mettons, pêcher dans les rivières gaspésiennes? Ça aussi, y en a-tu encore?
C'est vraiment drôle tu me dis ça parce que je suis là présentement. Je suis présentement, ça arrive à Matapédia.
Pour vrai?
J'étais en vacances. On passe par la Gaspésie parce qu'on s'en va au Nouveau-Brunswick. Okay. Puis on a breaké ça à Matapédia pour pêcher. Moi, ça fait 40 ans que je pêche à Matapédia.
C'est là qu'il allait pêcher, Gordie Howe, là.
Exactement. Parce que la rivière Matapédia, elle a une renommée mondiale par la grosseur de la rivière puis par la grosseur de ses saumons. Fait que sur les rivières, en Gaspésie surtout, comme la Matapédia, ben il y a eu des présidents qui ont passé, il y a eu des joueurs de hockey, comme tu parles, il y a eu des clubs privés là-dessus, il y en a encore qui existent.
Des hommes d'affaires américains.
Des hommes d'affaires américains, les clubs privés comme le Glenema qui existe encore sur Matapédia. Ben oui, effectivement, ça existe encore, mais moins. Je ne sais pas avec les nouvelles générations. Moi, là, tu sais, alors, j'ai 58 ans, OK?
Ouais, très fait jeune.
Moi, j'ai connu ça. Ce côté-là artisanal, huppé, très mythique de la pêche au saumon.
Oui.
Puis, avec le temps, les jeunes ont fait changer ça un peu. Ont amené une nouvelle fraîcheur à ça, surtout l'avenue de Hooky. Je ne sais pas si vous connaissez Hooky.
Ben oui, avec Fred Campbell.
Avec Fred Campbell, exactement, qui a amené une fraîcheur puis qui a amené beaucoup de jeunes nouveaux pêcheurs. Mais cette historique-là de la pêche au saumon, elle est encore là, mais elle est moins connue, je vais dire, que des nouvelles générations. Mais oui, ça existe encore, puis oui, les mouches, c'est comme ça. Puis c'est tout le temps un honneur quand un maître monteur qui te fait une mouche en ton nom et qui te l'apporte. Moi, j'en ai une pour la faire monnaie.
Okay.
J'oublie les noms, là. Je m'excuse vraiment, il est décédé aujourd'hui.
Ouais.
Mais il y avait un maître monteur que je connais. Oui, c'est ça. Puis le gars, c'est un champion du monde, puis il avait fait une mouche, la Monette Fly, justement, en l'honneur de notre entreprise, puis il avait mis les couleurs, puis c'était une mouche d'exposition. Mais oui, les mouches de certaines personnes très connues, des gars qui aimaient la pêche au saumon, comme Gordie Howe, ben, il y avait sa mouche à lui qui était là. Puis il y en a, mais écoute, il y en a à ce stade des milliers de mouches là, qui ont été faites comme ça. Comme là, on va tomber plus basique, mais la pompier, ben c'est parce que c'est un pompier, puis il y a plein de noms maintenant qui arrivent avec ça. Des histoires de mouches un peu cachées un en arrière de l'autre. Mais être maître monteur, oui, c'est quelque chose, puis ça existe encore, heureusement. Mais ce qui me tue maintenant, c'est de me promener en Gaspésie, puis de voir les anciennes shops de maître monteur, puis que les gars, ils ont vieilli maintenant, puis ils ont disparu.
Ouais.
Fait qu'il en reste beaucoup moins, c'est beaucoup moins comme quand il y en avait avant.
Mais vite de même, une mouche faite à Taïwan, là, avec des plumes abstraites, là, qui n'ont pas rapport avec la connaissance de la rivière, ça fait un job pareil, tu sais. Il y a une partie de...
Absolument.
Il y a un petit peu de mythe là-dedans, là.
Ben, en fait, les mouches populaires, ils ont un patron.
Ouais.
Ils ont exactement... Comment monter le corps, comment monter l'aile, comment monter les joues, comment monter la barbe, tout est là. Mais, puis là, ben, de ce modèle-là, que tu sois fait tout ce que tu voudras, ben, ils suivent le modèle puis ils vont avec. Mais le côté mythique est encore là.
C'est comme une recette éprouvée, tu sais.
Exactement.
Hey Stéphane, on le sait que tu es conférencier, chasseur, auteur, cinéaste, mais cuisinier.
Ouais.
Avant que Phil s'en aille en vacances, notre boss, il m'avait dit, si tu as la chance d'avoir Stéphane Monette en entrevue, parle-y des recettes qu'on peut se faire si on est pris dans le bois, mettons-le. T'sais, si on est survivaliste, on le sait déjà, là, qu'on peut manger un porc-épic.
Ouais,
là,
ouais.
C'est... Mais tu sais, pour madame tout le monde, là, madame qui se perd dans le bois, là, avec, mettons, je pense à Mélanie.
Mettons
Mélanie qui est dans le bois.
Mettons, je peux-tu les faire cuire puis les manger?
Là, elle se ramasse, là, elle passe la nuit en forêt, tu sais, puis là, je ne voudrais pas qu'elle soit habillée comme elle est habillée en studio aujourd'hui parce qu'elle se ferait piquer les cuisses, là. Mais juste qu'est-ce qu'on peut manger? Puis comment l'apprêter? Parce que dans les archives de Radio X, puis j'ai capable de le retrouver, mais on me raconte que tu as déjà fait une recette en onde. Le monde s'en rappelle encore. Là. C'était-tu une recette de moufette, d'écureuil, de porc épic?
Je ne le sais plus. En fait, ce que j'avais fait, c'était des cretons à l'Orignal que j'avais amené à la gang de Radio X, ça les avait fait complètement halluciner. Après ça, on avait refait, hey, là, tu me ramènes loin, avec Estibol, j'étais dessus. Je me souviens pas avec qui, mais les Bruins avaient gagné, puis j'avais amené du jerky d'ours
que
j'avais fait faire pour manger ça.
Ça devait être
avec, délicieux. Avec Babu, ouais, je me sens que c'était avec Babu. Fait que, tu sais, mes poignées dans le bois, si, par exemple, t'as pas d'arme à feu, faut que tu sois habile de te faire des pièges.
Oui, je regarde là, les ongles, là, ça va être, c'est quasiment une arme.
Ouais, puis de l'autre bord, t'as pas ta petite poêle Tefal, puis t'as pas ton petit carré de beurre avec une bouteille de vin, là.
T'es vulnérable.
Fait que, si, t'es vulnérable. Fait que, tu sais, à base, faut que tu sois capable au moins de te faire un feu. Puis, normalement, si tu veux te nourrir dans le bois, première fois qu'il va te tomber ses dents, tu vas le manger. Fait que souvent, c'est les petits rongeurs qu'on va manger. Fait que ce soit des écureuils, que ce soit des moufettes. Enfin, pas des moufettes, mais des marmottes. Ben là, tu vas pouvoir les manger. Du poisson, naturellement. Mais là, ça sera pas de la fine gastronomie, on s'entend. Là.
Ben non, ça va être des protéines qui goûtent pas bon.
Ouais, des protéines, puis tu vas peut-être faire un petit cacamou le lendemain matin. Là. Tu sais, là, on s'entend.
On dirait que t'as déjà fait ça, toi, toutes ces affaires.
Ouais, inquiète-toi pas, c'est arrivé. mais tu sais, c'est pas pareil quand t'es mal pris dans le bois, c'est un autre game. Puis, tu sais, on le dit tout le temps, hein, tout le monde qui va en forêt,
ouais.
Que ce soit pour 15 minutes, puis que ce soit pour des semaines, il faut tout le temps être pire, prêt au pire.
Amène-toi
un lighter. Ben, au moins, puis pense qu'est-ce qui peut arriver d'avoir une trousse de premiers soins, d'être capable de déprendre s'il arrive de quoi.
Un couteau.
Que, ben, ouais, un couteau, puis tu sais, moi, je dis souvent ça, hein, autant que c'est beau aller dans le bois, autant que c'est magnifique, autant que les couchers de soleil sont merveilleux,
ouais.
On pense à une affaire, par exemple, mais la nature, elle est impitoyable. Si tu la respectes pas et que tu n'es pas prête à elle, que ce soit par une tempête qui va arriver, d'un orage, peu importe, elle va te brosser sur le Canadien et te faire comprendre qu'il faut que tu la respectes, il faut que tu sois prêt quand tu es avec elle. Fait que c'est important quand on va en forêt. Mais pour le reste, écoute, se faire manger dans le bois, c'était pas grand-chose, ça va goûter fort, ça va peut-être... puis tu vas peut-être faire un petit cacamou le lendemain, je te le dis, ça, c'est sûr et certain. Ouais, ça va te rendre plus fort, exactement.
Mettons, mal pris dans le bois de même, ou bien pris, mettons, j'ai une carabine, puis là, il n'y a pas de les trois classiques, là, orignal, ours et chevreuil, ce serait quoi la meilleure viande à manger au goût qu'on peut trouver dans le bois de même?
Le porc-épic est excellent. Tu sais, on y a bien que le porc-épic, puis il est protégé, hein? Mais une des raisons pourquoi on le protège, c'est qu'il est très, très, très facile à récolter. C'est
ben
facile
oui.
Pour un porc-épic qui arrive de quoi.
Parfois, du porc-épic, hein, on peut goûter à ça.
Ah oui.
Ouais, exactement. Fait que après ça, ben tu tombes. Tu sais, c'est qu'est-ce qui va te tomber sur la main que tu vas récolter parce que quand tu te mets à avoir faim, mais tu sais, la base, bien avant manger, c'est boire. Hein, faut que tu sois prêt à avoir de l'eau. Fait que tu as tout le temps avoir des capsules, mettons, pour pouvoir avoir de l'eau potable.
Prendre l'eau potable.
Ouais, ou des filtres. Tu sais, nous autres, on a tout le temps ça. C'est des filtres qu'on a dans nos sacs à dos. Fait que si on veut prendre de l'eau, ça n'y est pas deux secondes, tu peux te prendre de l'eau. Mais après ça, my God, c'est vraiment ce qui va te tomber sur la main. Parce que quand t'as faim, tu regardes plus bien la couleur, puis tu regardes plus bien la grosseur. Mais à base, normalement, lièvre, porc-épic, c'est pas mal la base de qu'est-ce qu'on va pogner. Les oiseaux aussi, hein. N'importe quel oiseau, puis c'est facile à pogner des oiseaux.
Des œufs. Des petites ailes de colibri, là.
Ouais, tu vas manger longtemps.
Ouais, mais cette semaine, elle ne mange pas beaucoup.
Hey, non, mais en chalet, cette semaine, je suis retombée, j'avais envie de manger de la langue de porc parce que je me souvenais que quand j'étais jeune, j'adorais ça.
Okay.
J'ai également déjà, mon professeur, le Roland Sioui, nous avait fait goûter de la langue d'orignal et du porc-épic.
Absolument.
Puis j'ai adoré ça. Mais est-ce qu'il y a une raison? Ben, en fait, est-ce qu'on peut aussi manger de la langue d'ours, de la langue de bœuf, de la langue... Est-ce que toutes les langues sont...
Mangeables. En fait,
ouais.
On reste, faut tout le temps rester à la base, OK? Tout ce qui est cervidé, tout ce qui mange de l'herbe comme des vaches, on va dire ça de même, il n'y a pas de problème à manger les langues. OK? J'ai mangé de la langue d'orignal, j'ai mangé de la langue de chevreuil, il n'y a pas de problème.
Okay.
Quand tu tombes dans les prédateurs, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent avoir des bactéries à l'intérieur. Ils peuvent te transmettre ça. Fait que dans le cas de l'ours, malgré que l'ours a une viande hyper excellente, OK? Ben je me garderais une gêne pour les abats, puis je me garderais une gêne pour la langue. Parce que tu peux pogner un parasite, parce que tu peux pogner quelque chose, puis là, tu peux être très malade à cause de ça. Fait que là, c'est là. Mais n'importe quelle autre langue, si elle est bien apprêtée, j'ai fait un livre de recettes à un moment donné, puis j'avais mis dedans la langue d'orignal qu'on se fait à la maison, tout le kit. Puis oui, c'est excellent, c'est très, très bon. Un peu plus coriace que de la viande de la langue de porc, mais bien apprêtée, c'est excellent.
Mais tu sais, mettons, moi, je me vois très mal, Stéphane, lutter avec un ours pour y arracher sa langue pour finalement la manger crue, là. J'avais une question plus précise concernant... Tu sais, parce que là, le porc-épic, tout le monde dit, hey, le porc-épic, il est protégé. Puis tu viens de le rappeler, d'ailleurs, là, le porc-épic, on peut le manger. On peut le manger cru, mais on le tue comment? Puis on mange ça par quel bout? Je veux dire, tu sais, c'est une bonne grosse roche d'en face, on le vire de bord, on rentre par le ventre. C'est quand même... Mais moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Il y en a une gang qui t'aimeront pas de dire ça de même. Là.
Okay.
Mais oui, normalement, si t'es mal pris,
ouais.
OK, parce que c'est simple, c'est un coup de bâton sur le nez.
OK.
Fait que tu l'immobilises, puis il faut faire attention à la queue, hein, parce que ça lance pas des épines. Il y en a qui disent, hey, ça lance des épines. Non, ça lance pas des épines.
Ça peut s'accrocher comme un velcro.
Ben, en fait, c'est sa queue qui projette, qui va te donner un coup de queue, puis au nombre d'épines qu'il y a dedans, c'est là que ça peut te blesser. Fait qu'il faut faire très attention à la queue. Mais quand t'as été, ça court pas vite. Ça a été pensé pour ceux qui sont mal pris dans le bois. Là. Vraiment,
c'est
parce qu'il est là pour
c'est
ça.
C'est
là.
Dieu qui était
vraiment là pour ça. Il n'y a pas grand chance, là, lui. C'est sûr.
Fait qu'une fois qu'il est, mettons, bien assommé, là, puis walkman assommé, là, je ne veux pas rentrer dans le détail là, pour faire peur aux
ouais,
enfants.
Ouais, c'est ça. C'est bien dit, fait ça, walkman assommé.
On a fait la prière, on l'a allié vers la mec.
Là, il fait dodo, le petit pot équipé. Mais je l'ouvre comment? Je le mange par où? Les pattes, la queue, ça me
prend
moins.
Ça prend un couteau.
Ouais.
Première affaire. Puis là, on va faire attention à nos wogs qui nous écoutent, mais
oui.
On enlève son manteau d'épines.
Oui.
Hein? OK. Bien que tu aies enlevé son manteau d'épines, mais là, il va être flambant à nu. Fait que là, décide le morceau que tu veux manger. Normalement, on s'attaque souvent au dos.
Oui.
OK, tout ce qu'il y a le long du dos, parce que c'est une chair qui est très tendre, qui est facile à enlever puis à manger. Après ça, ça va être les cuisses.
C'est la pas dernière bouchée affaire, direct, manger. Direct dans la bête, là, la grosse
non,
bouchée comme un Elix avec un sanglier.
Non.
Okay.
Moi, je vous conseille fortement de le cuire.
Mets ça dans le feu, hein?
Ouais. Okay.
Ouais, parce que c'est là que tu fais un petit cacamou qu'on parlait tantôt. Là, manger ça saignant, t'as des bonnes chances que tu vas avoir.
Puis, y a-t-il une épice que tu peux mettre
en mode de faire impressionnant dans l'estomac?
Est-ce que tu l'épices avec des aiguilles de mélèze ou encore des fougères que tu as trouvées au sol? Y a-t-il quelque chose pour donner du goût autour de toi qui. Un petit truc, là, mettons, Stéphane, là?
Ben, t'as le thé du Labrador qui est quand même pas pire, que tu peux faire ça avec. Mais écoute, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose qui va donner...
Il n'y a pas de fabricant dans le bois.
Pris. Non, puis il n'y a pas de recette miracle. On parle qu'on vient de manger. Là, c'est pas... Je pense pas, il n'y aura pas grand-chose de super là-dedans.
On tient à rappeler d'ailleurs qu'on n'a pas le droit là, de chasser des porcs-épics.
Exactement.
Quand même,
que
vous allez être un criminel, fait que faites-le vraiment en cas de mort imminente.
Ben oui,
là. Et, mais mettons, on est en cas de mort imminente, ça goûte quoi? Hein? Ça goûte le bœuf, ça goûte le chevreuil, ça goûte le poulet, ouais.
J'ai pas été assez mal pris encore pour ça, mais comme maladie, j'ai déjà été dans des événements où est-ce que les Premières Nations en faisaient. Puis c'est une viande qui est très, très rouge, OK? Puis ça a un goût, on va dire, ça... mettons, Subol, il n'y a pas grand gibier, il n'y a pas grand viande naturelle, naturelle domestique qu'on mange qui goûte ça.
Ouais.
Ça a un goût un petit peu fort, là, ben, on va vous dire ça comme ça. Ça a un goût de fer. Très, très, très ferreux. Okay. Un peu comme du foie, mettons.
OK.
OK, là, si je me rappelle, là, ça goûte pas mal ça.
C'est pas ça.
Ouais, exactement.
Ça
vraiment
tellement faim que, qu'est-ce que tu veux, je veux dire, c'est faut manger, là.
C'est toi ou le porc-épic.
Ouais, c'est ça.
Il y a des gens qui se demandent, une moufette, ça se mange-tu? Même, là, tu sais...
ouais, mais le goût est comme proche de qu'est-ce que ça sent.
OK.
Oh, miam.
Ça a un goût, ça a un goût assez prononcé. Très, très, très prononcé.
Stéphane, vu qu'on ne peut pas manger de moufette, il y a une autre question qui vient de popper sur la messagerie. J'ai le goût de la poser, mais je pense qu'on vient de changer. On n'est pas dans tes compétences avouées. Là, je prends une petite chance. Là, il y a des requins blancs dans le coin des îles de la Madeleine, puis le monde capote.
Ouais.
Là, c'est dans Baie des Chaleurs. Là, c'est le Shark Week au Québec. Là. On donne même des noms. Là. Bella, on a vu Bella à Carleton, des affaires de même. Là, moi, le grand requin blanc, c'est mon pire film d'horreur. Moi, Jaws, là, j'ai capoté bien raide. Là, je m'en vais à Gaspésie. Mettons, cette année, aucune chance que j'en croise un. Là.
Non, tu as des chances de te fesser sur un.
Ah ouais?
Je les suis, moi, ça fait longtemps. OK, on est au courant de ça. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'il y a des grands requins blancs qui viennent dans le fleuve, dans l'estuaire du Saint-Laurent. Pourquoi maintenant, on le sait qu'il y en a quelques-uns qui ont des noms? C'est parce qu'ils ont des balises. On peut les suivre, même, je me souviens pas du site. Là.
C'est comme une antenne.
T'es capable.
L'application.
Une antenne sur l'aileron, c'est ça?
Oui, exactement. Ils ont des balises, sont nommés, puis ils les suivent. Si je me trompe pas, là, il y en a une quinzaine qui viennent dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais des 15, imaginez combien il y en a qui peuvent venir.
Ouais.
La raison est simple, pourquoi pas qu'ils viennent dans l'estuaire de plus en plus. Et voilà, la bouffe. C'est le temps ça qui draine tout dans la
nature. Là, c'est le retour de la morue, donc les phoques sont de retour, donc les requins arrivent.
Oui, exactement. Puis il y en a beaucoup de phoques présentement. Fait que oui, effectivement, il y en a pas mal. Moi, j'ai eu connaissance de ça. Je vous parle de ça, là, il y a une vingtaine d'années qu'on en avait vu à l'automne tard, au mois d'octobre, au mois de novembre, parce qu'on chassait le canard de mer. Puis on en avait vu dans la mer. Puis là, tu sais, tu fais deux minutes.
Vous étiez au large? Dans quel coin?
Ouais, percé? Ben, pas tant. Non, on était dans le bout de cette île dans ce temps-là.
Ah, OK. Ça...
Puis vraiment, ça côte nord. Puis oui, faites le saut de voir ça dans l'eau. Fait que ça, on s'était dit, ah, c'en est un écarté. Mais avec le temps, on a compris qu'ils viennent fréquenter, mais on les voyait pas. Hein. Tu sais, quand ça arrive au mois d'octobre-novembre, pas grand monde qui se baigne octobre-novembre dans le fleuve.
Tranquille, les bikinis.
Et voilà. Mais là, à cause qu'il y a énormément de phoques, qu'il y a énormément de nourriture, ben les grands requins blancs, ben ils ont découvert le jackpot. Fait que c'est le buffet à volonté. Fait que de plus en plus, ils arrivent de bonne heure. Puis là, ben, ils vont venir se faire un snack. Fait que c'est les mêmes précautions qu'on a en Australie, qu'on a quand on va en Floride ou quand on va le long de la côte est américaine. Ouais. En Californie, même affaire. Faut faire attention. Faut
mais
pas
Stéphane,
faire
pour un... quand ouais. Steven Spielberg a sorti Jaws dans les années 70, nous, on était dans notre belle jeunesse, les deux, là, on est dans la cinquantaine.
Exact.
Mais il me semble des requins, c'était genre en Californie, des fois, un peu en Floride, beaucoup en Océanie, comme on disait à l'époque, mais jamais au Canada. Là, c'est les changements climatiques, c'est l'eau qui change. C'est...
Ben oui, absolument, c'est vrai ça. C'est en fait, c'est ce qui drive tout dans le monde animal, c'est la nourriture. Parce que s'il y a une augmentation de population X, ben tu as les prédateurs de prédation X qui vont arriver. Fait que dans le cas du grand requin blanc, ben sa source de nourriture numéro un, c'est le phoque. Puis il cherche la facilité. Fait que plus qu'il y en a, plus que c'est facile, plus qu'il y en a, plus que des petits, plus que les petits sont faciles à attraper, donc le prédateur, c'est là qu'il se présente. Fait que c'est le même phénomène qui arrive présentement avec le requin blanc.
C'est un gros dans un restaurant bar ouvert, là, je veux dire, un buffet ouvert. Là,
exactement ça.
Il y a de la bouffe à l'infini, tu peux manger, mon gars, comme tu veux. C'est le paradis.
Sauf que, faut comprendre qu'il ne faut pas se faire prendre pour un phoque quand on nage. Fait que, tu sais, si vous êtes une plage...
Merci de nous rappeler les choses de base.
Mais oui, c'est la chose de base, tu sais. Fait que faites attention, puis allez pas dans trop creux, puis soyez à plusieurs à regarder. Tu sais, on s'empêche pas de se baigner quand on va en Floride, on s'empêche pas de se baigner quand on va, peu importe, dans un endroit où il y en a, ou qui nous disait qu'il y en avait. Mais maintenant, on le sait qu'il y en a le long de nos côtes à nous autres. Fait qu'il faut juste être prudent, puis comprendre les signes. Si, Gabin, là, si t'as un lot de loups marins qui sont en entour de toi, prends pas ta planche de paddleboard puis décider d'aller dans la gang pour prendre des photos de ton cellulaire.
Ben, mon Instagram, moi, je vais filer mon Insta.
Va chercher des oiseaux mouches qu'on parlait tantôt. Ça va être moins dangereux.
Ben, vous laisserez ajouter quelque chose.
Ben, grâce à l'application là, OSearch, que vous pouvez télécharger sur Apple Store et Android, il y en a un là, dans le coin de Lance-Avallo, Petit Cap. C'est quand même
mais là,
c'est proche, là.
Mais là, ils ne monteront pas jusqu'à Québec, Stéphane. Là, ils ne monteront pas jusqu'à Rivière-du-Loup non plus. Ils vont monter, ils monteront pas dans le fleuve même.
Il y en a deux même.
Ouais. Bien, on ne peut pas... Gardez bien, là.
Okay. Attends.
Pensez où il y a de la bouffe, OK? Parce que s'il y a des phoques à cette hauteur-là, il y a des chances qu'ils viennent jusqu'à cette hauteur-là. Mais, n'oubliez pas une autre affaire, là. Vous voyez juste ceux qui ont des balises,
tag,
là.
Ouais.
On ne sait pas combien il y en a, là. Il y en a-tu 50 de plus, il y en a-tu 400 de plus, ou il y en a 2 de plus, on ne sait pas, là. Parce qu'on n'est pas encore à faire des études de fou là-dessus. Puis ceux qui en font, ils gardent ça secret pas mal. Là. C'est dur d'avoir beaucoup d'informations là-dessus, là, présentement.
Mais on peut être assuré qu'il n'y a jamais personne qui va se faire croquer un orteil à Bit Beauport, parce que j'imagine que ça ne vient pas en eau douce. Ça reste en eau salée.
Ben, ils viennent de fermer la Bit Beauport, là. Ils viennent de la fermer il y a une heure, là. La baignade est interdite.
Oui. Probablement parce que l'eau était insalubre. Je ne penserais pas c'est parce qu'il y a un requin blanc qui est sur le bord de la
ville. Les requins, ça fréquente pas ça. Les eaux insalubres, j'imagine, ça recherche une certaine qualité de d'eau.
Oui, mais tu vois, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, tu sais, parce qu'ils doivent. Tu sais, la façon que le système respiratoire est fait, ça doit prendre vraiment de l'eau très salée. Mm-hmm. Fait que je pense pas qu'ils vont monter si haut dans le fleuve ou est-ce qu'il y a un mix entre l'eau salée et l'eau. L'eau douce. Mais oubliez pas, là, on a déjà vu des phoques à Montréal. Fait que.
Peux-tu, Une dernière question pour Stéphane Monnette, d'un auditeur. Moi, j'ai pas de vacances. Je travaille 75 heures par semaine. Je suis un gars qui s'ennuie de la Gaspésie. Je vous ai entendu parler de la Gaspésie tantôt. Y a-t-il des spots à Québec où est-ce que je peux aller pêcher, avoir la paix? Il a son permis de pêche, le gars, il dit, là.
Le fleuve. Le fleuve est une richesse incroyable qu'on a au Québec. Multi-espèces, on peut s'amuser en masse, ça coûte rien. Une canne pas chère chez Canadian Tire, un bocaux de verre avec un plomb et un hameçon. Lance ça, puis attends, tu vas avoir des surprises.
Ça arrive sud, ça arrive nord, il n'y a pas de spot. Là. Tu ne révéleras pas un spot aujourd'hui. Le spot à Monnette.
C'est tout le temps, pensez à ça, OK? Tout le temps, quand il y a une rivière qui chiette dans un affluent, ça apporte de la nourriture. On va parler, mettons, les chutes de Montmorency.
Oui, c'est un bon spot.
Ben, où est-ce que l'eau coule dans le fleuve? Ben, à cet endroit-là, c'est un excellent spot pour plein d'espèces. Fait que quand tu te promènes, puis tu vois une petite rivière, un ruisseau qui jette dans le fleuve, ben, dis-toi que le matin de bonne heure, puis en fin de journée, quand que le soleil se couche, il peut avoir une période d'activité parce que ce ruisseau-là, cette rivière-là, apporte de la nourriture. Puis tu vas avoir du doré, tu vas avoir du brochet, tu vas avoir des espèces, tu vas avoir de la carpe, tu vas avoir de la barbotte qui va attendre parce que ça amène de la bouffe facile. Puis eux autres, bien, la seule affaire qu'ils veulent, c'est la facilité. Comme on a parlé tantôt des requins, puis comme on a parlé des autres espèces, c'est tout le temps la même affaire qui drive la nature.
La facilité, c'est ça, faire une chronique avec Stéphane Monnette. On vient de passer 20 minutes en onde, c'était spectaculaire. On a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais. On a parlé de ma parenté, de la cavane à gus, la truite de mon père.
Ça reparle que tu m'envoies ton affaire de truite dans le lac. Là. Je suis bien curieux de connaître ça.
Je vais t'envoyer ça avec un grand plaisir. Stéphane Monnette, on peut le suivre sur YouTube, on peut le suivre sur Radio X, évidemment. Il sera de retour à l'automne avec DH. Conférencier, chasseur, auteur, cinéaste, cuisinier et homme vraiment intéressant à entendre. On ne manquera pas une de tes chroniques lors du début de la saison à l'automne. Merci d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, Stéphane. C'est un grand plaisir.
Hey, merci, c'est tout le temps le fun de parler avec vous.
Salut.
Salut.
OK, ciao.
Nous, on prend une petite pause, Stéphane Monnette. C'est un gars qui prend du temps.
Il connaît ça?
Il connaît ça. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on vient de passer avec lui. Prenons une petite pause au retour de celle-ci. Un autre Stéphane, et on va parler de sa vie intime. Stéphane, la chance.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
OK.
On revient dans pas long.
Radio X.